France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le deuxième et dernier épisode de notre série consacrée à la santé mentale, nouvel enjeu mondial des politiques de santé. Nous évoquions hier les ONG de l'humanitaire qui ne soignent plus seulement les corps mais aussi les âmes. Le séisme de 1988 en Arménie a été un tournant. Aujourd'hui en Europe, les nouveaux regards et les nouvelles politiques publiques sur la psychiatrie.
COVID-19 has impacted the mental health of millions of people.
Le Covid-19 a impacté la santé mentale de millions de personnes dans le monde en termes d'anxiété ou de peur. La pandémie a aussi engorgé et perturbé le fonctionnement des services psychiatriques.
Nous n'étions absolument pas préparés face à la pandémie. Nous n'avions pas assez de psychologues. C'est dans ce genre de moment de crise qu'on réalise à quel point il est indispensable d'avoir un système public performant pour répondre aux demandes d'urgence.
Les problèmes de santé mentale touchent un Français sur cinq. Et particulièrement des jeunes. L'impact sur les familles et sur les proches est immense. Les maladies psychiques sont le premier poste des dépenses de l'assurance maladie. Ces maladies se soignent et la prévention est essentielle.
En France, une étude de la DRES, la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux, a mis l'année dernière des chiffres sur le mal-être des plus jeunes, des filles essentiellement, dont le taux d'hospitalisation en psychiatrie a augmenté de 246% chez les 10 à 14 ans, de 163% chez les 15-19 ans et plus de 100% chez les jeunes adultes. Des jeunes filles et des jeunes femmes racontant les faits qu'ont eu sur elles les discours fatalistes face à la crise écologique, face aux guerres, au manque de perspective, beaucoup d'entre elles avaient même pris la décision d'en finir, assurant qu'il ne s'agissait pas d'une lubie passagère, mais d'un fruit mûr. La pandémie de Covid a manifestement eu un effet dévastateur pour beaucoup d'entre nous, un confinement synonyme pour certains de grande solitude et pour d'autres de grande promiscuité. Dans tous les cas, une contrainte et une situation insensée, à tel point que partout en Europe, la santé mentale, censée s'intéresser à tous et pas seulement aux plus fragiles, est l'objet aujourd'hui de plusieurs politiques publiques. Au Royaume-Uni, le gouvernement légifère pour réduire le nombre d'arrêts maladie liés au burn-out et dépression. À la fin de l'année dernière en France, Michel Barnier décrétait que la santé mentale devenait une grande cause nationale dans le sillage du reste du plan italien lancé 2 ans plus tôt. Bonjour Livia Velpri.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Paris 8, membre du laboratoire CERMES 3 pour Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et Société. Bonjour Coralie Gandré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes docteur en santé publique, chercheuse à l'IRDES, qui est l'Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé. Vous êtes la co-autrice d'un atlas de la santé mentale paru en France en 2020. Beaucoup de choses se sont passées depuis, de grands bouleversements, à commencer dans l'ordre chronologique par la pandémie de Covid. Est-ce qu'il y a à ce jour, 5 ans plus tard, Coralie Gandré, des études que vous qualifieriez de sérieuses sur les liens de causalité, vraiment les liens de cause à effet entre la pandémie et les questions de santé mentale et toutes les dépressions qui ont été évoquées en début de cette émission?
Alors, il faut toujours rester prudent sur les questions de causalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit une dégradation de la santé mentale, et comme vous l'avez dit, des populations les plus jeunes au fil du temps, et notamment depuis 2021. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était des tendances qui étaient préexistantes, notamment notamment sur la santé mentale des jeunes filles, il y avait déjà une dégradation observée depuis 2017 et que le Covid est venu aggraver la situation, a agi comme un catalyseur, mais c'est pas le seul événement au fil du temps. Et tous les événements de vie difficiles contribuent à dégrader la santé mentale, sont un déterminant de dégradation de la santé mentale. Donc il y a eu un effet effectivement du Covid, mais qui s'inscrit dans des tendances plus longues et multifactorielles.
C'est vrai que les jeunes filles, les jeunes femmes sont vraiment mises en avant dans les études. Les chiffres sont toujours très effarants et très inquiétants. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que c'est parce que les jeunes filles et femmes ont plus tendance à manifester un mal-être et aller voir un médecin ou aller se rendre elle-même à l'hôpital public? Ou est-ce que, et plus généralement, est-ce que c'est ça aussi les chiffres qui ont explosé dans la société française en général? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on peut parler de façon sûre d'un mal-être qui a augmenté? C'est difficile de mettre des mots sur tout ça, davantage de personnes qui se prennent en main et qui en parlent.
Alors c'est aussi un peu un mix des deux, parce qu'effectivement il y a une démocratisation du recours aux soins de santé mentale. C'est une génération qui va avoir plus de facilité à parler de ses problèmes de santé mentale, mais même les psychiatres sont un peu démunis face à l'augmentation des cas chez les jeunes filles et ont du mal à comprendre les spécificités dans cette population par rapport aux jeunes garçons. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, notamment des hypothèses aussi liées aux réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'explication claire de cette tendance chez les jeunes filles qui soit parfaitement connu et établi aujourd'hui.
Les réseaux sociaux et notamment le réseau social TikTok qui fait vraiment l'objet d'une grande attention et en ce moment même chez les sénateurs d'ailleurs. Livia Velpri, pour tout de suite faire un point sémantique, on parle de santé mentale là depuis le début de cette émission, également hier. C'est une expression qu'on utilise depuis quand et pourquoi est-ce que on parlerait, quand on parle du Covid, on parle de santé mentale davantage que de psychiatrie?
Alors, effectivement, en fait, alors si on se situe en France, c'est depuis les années 2000 que la notion de santé mentale a vraiment, c'est pas envahi, mais disons, c'est vraiment imposé et dans le débat et dans les politiques publiques. Alors, peut-être après, je reviendrai sur l'origine, c'est-à-dire...
Non, mais allez-y, c'est quoi les États-Unis?
En fait, c'est depuis... c'est aussi en France, en fait, il y a un héritage depuis au début du XXe siècle qui est aussi associé à des tentatives de réformer, en fait, la manière dont on prenait en charge les troubles psychiques à l'époque et donc est aussi associé à la désinstitutionnalisation. Où on parlait d'hygiène mentale et où on s'est dit mais il faut aussi faire de la prévention. En fait, il faut aussi prendre en compte tout un ensemble de problèmes sociaux. Il faut détecter les troubles plus tôt et donc il y a un mouvement d'hygiène mentale qui date du début du XXe siècle et qui dans les pays anglo-saxons et dans le monde international, enfin dans les instances internationales, s'est beaucoup développé dans les années 40 et 60. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, en fait, la santé mentale, ça devient un objet des politiques publiques dans les années 60 et 70, et c'est assez actif. Et en France, c'est un peu plus tardif.
Et là, pour le Covid, tous les articles, tous les discours politiques aussi qui parlent de troubles anxieux, de dépression, depuis le Covid en particulier, parlent de santé mentale davantage que de troubles psychiatriques. Est-ce que néanmoins, il y a une distinction à opérer? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire le Covid a augmenté tel trouble psychiatrique et est-ce que c'est une partie de la santé mentale?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la santé mentale, au début des années 2000, bon, si on reste sur le cas de la France, au début des années 2000, donc le terme de santé mentale arrive et est contesté et promu, enfin voilà, fait l'objet un peu d'une activité des acteurs de ce monde-là.
Les psychiatres, notamment, ont peur que la psychiatrie soit diluée dans la notion de santé mentale.
Voilà, tout à fait. Et en fait, ça va avec d'autres changements sémantiques. Je sais pas, cette semaine, on a parlé de Nicolas Demorand. Enfin, on voit partout Nicolas Demorand qui dit « je suis un malade mental ». Moi, quand j'ai travaillé sur ces questions à la fin des années 90, on parlait de maladie mentale ou de troubles mentaux graves. Et en fait, c'est aussi une période, l'arrivée du terme de santé mentale, où on commence à parler plutôt de troubles psychiques, où apparaît la notion de handicap psychique. Et donc... il y a une sorte de processus d'euphémisation, finalement, d'un certain nombre de termes, comme maladie mentale, évidemment folie, peut-être aussi un peu psychiatrie, qui a une visée positive finalement de déstigmatisation, avec l'idée, en fait, il faut dire la santé mentale, c'est le problème de tout le monde, c'est pas que les fous à mettre à l'écart, en fait, c'est un problème pour tout le monde. Et avec des degrés, c'est comme un continuum avec des degrés de gravité différents. Ce à quoi, effectivement, les psychiatres, certains psychiatres s'opposent en disant, en faisant ça, on invisibilise des problèmes qui sont spécifiques. Voilà.
Le syndicat des psychiatres des hôpitaux en France, par exemple, parle d'une notion un peu fourre-tout qui regrouperait, d'après ce collectif, le marché du bien-être, celui de l'e-santé mentale, les grandes souffrances psychiatriques, toutes mises dans un même sac. C'est un débat qu'on ne va pas refaire ici. Ce sont les professionnels de santé, surtout, qui l'animent, ce débat-là, et qui se posent ces questions-là. En tout cas, la question des troubles anxieux, des pensées suicidaires, des cas de dépression aussi, ont beaucoup augmenté depuis le Covid, en Italie aussi, 26% de hausse des cas de dépression, 28% des troubles anxieux. Les hôpitaux ont constaté une explosion des visites liées à des pensées suicidaires depuis la pandémie.
Ma grand-mère avait 96 ans lorsque mes parents lui ont transmis le Covid. Elle nous disait « Vous n'allez pas m'abandonner et me laisser seule à l'hôpital ?» J'ai essayé de lui expliquer la situation, mais je ne suis pas sûre qu'elle comprenait bien ce qu'il se jouait. Après sa mort, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Est-ce qu'on aurait dû agir différemment? Est-ce qu'elle aurait pu être sauvée si on avait appelé une ambulance un peu plus tôt? Ou si mes parents s'étaient isolés dès l'apparition des premiers symptômes?
Une jeune Italienne interrogée en 2020 par la BBC, Coralie Gandré, si aujourd'hui on n'est pas capable de dire très clairement les liens de causalité entre la pandémie, le confinement, tous ces morts qu'on n'a pas pu assister jusqu'au dernier moment, tous ces proches, et les dépressions et les troubles anxieux aujourd'hui, est-ce que néanmoins on peut dire que le Covid a créé ou accéléré une prise de conscience du côté des responsables politiques de ce qu'il fallait porter une attention particulière à ces questions de santé mentale ?
Alors oui, je pense que c'est indéniable qu'il y a eu une attention, alors d'abord sociétale et médiatique, sur ces questions-là, qui a été totalement renforcée par la pandémie de Covid-19. Et cette attention, combinée à la dégradation de l'état de santé mentale de certaines populations dont on a déjà parlé, a agi comme une sorte de révélateur pour les politiques publiques et pour les pouvoirs publics de davantage s'emparer de ces sujets. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait déjà là aussi des tendances préexistantes. Ça fait 20 ans que l'Organisation mondiale de la santé a des plans d'action dédiée à améliorer les systèmes de santé mentale dans le monde. Si on prend l'exemple de la France, ça fait aussi depuis les années 2000 qu'il y a des plans dédiés à la psychiatrie et la santé mentale, des plans successifs, le plus récent étant la feuille de route nationale psychiatrie et santé mentale qui date de 2018. Il y avait un délégué ministériel à la santé mentale et la psychiatrie qui a été nommé en 2019, donc aussi avant la pandémie. Donc il y avait déjà des choses qui étaient faites avant la pandémie, c'était déjà une préoccupation des politiques de santé. Mais c'est vrai que si on reste sur l'exemple de la France, suite à la pandémie, il y a eu des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui ont été convoquées par Emmanuel Macron en 2021 et cette grande cause nationale dont vous avez parlé. Et c'est des choses qui auraient peut-être été moins rapides s'il n'y avait pas eu la pandémie de Covid-19. Et je pense aussi à l'exemple de l'extension du remboursement des psychothérapies délivrées par des psychologues libéraux qui a aussi été accélérée par la pandémie de Covid-19. Donc, en synthèse, c'est des choses qui étaient déjà dans les politiques de santé, mais qui ont pu être remontées un peu à l'agenda politique suite à la pandémie.
La dernière mesure que vous avez évoquée, c'est le dispositif Mon Soutien Psy. Oui. C'est ça, donc 12 séances à un tarif de 50€ la séance, prise en charge à 60% par la Sécurité sociale et le reste par la Mutuelle. D'abord, est-ce que c'est un dispositif qui, sans être dans le détail, est totalement identique, mais s'est mis en place dans plusieurs pays d'Europe ou les pays occidentaux que vous étudiez?
Oui, alors on est plutôt en retard sur cette question-là en France, parce que si je pense à l'exemple de l'Angleterre et de l'Australie, c'était des dispositifs donc, financés par le système de santé mentale publique qui existait déjà, cet accès aux psychothérapies délivrées par des psychologues. Donc on a pris la suite d'autres pays, mais avec un peu de retard.
Donc chez une liste, tout ça se fait chez une liste de praticiens validés par la Sécurité sociale. Beaucoup de professionnels ont été volontaires pour y participer, puisqu'ils ont obtenu notamment que le dispositif évolue. Au début, il s'agissait de 6 séances remboursées à hauteur de 40€ pour la première, puis 30 pour les autres. Mais pour d'autres psychiatres, en revanche, ce n'était pas qu'une question de montant de la consultation.
On nous a expliqué de la part du gouvernement que c'est parce que c'est un dispositif de première ligne, uniquement pour des troubles légers à modérés, et qu'en 8 séances, c'est réglé. régler. Et que s'il y avait besoin de plus de séances, c'est que c'est pas un trouble léger à modéré et que dans ce cas-là, il faudrait consulter un psychiatre. Ça n'existe pas, trouble léger, modéré, sévère, pas sévère. On ne sait pas ce que c'est, nous, en tant que psychologues cliniciens, cette intensité des troubles et des symptômes. On ne travaille pas comme ça. Donc, en fait, ce dispositif n'est pas adapté à la réalité du terrain. Nous, on reçoit toutes les souffrances psychiques, quelles qu'elles soient. C'est un dispositif de soins somatiques. Il a été calqué sur un modèle médico-centré. Mais on ne soigne pas les problématiques psychiques et les souffrances psychiques comme on soignerait un problème de santé somatique.
Est-ce que cela vous parle, Livia Velpri, le témoignage de cette psychologue clinicienne Camille Mohoric-Faedi qui répondait à Combini en 2022 quand a été lancé le dispositif Mon Soutien Psy, ce fait de dire qu'on ne peut pas comme ça d'emblée faire la différence entre des soins plus ou moins des patients qui relèveraient de la psychiatrie, d'autres qui auraient besoin d'un accompagnement dit léger, ce qui n'aurait pas de sens pour elle.
Oui et non, c'est-à-dire que ce qu'elle critique correspond quand même à une réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, peut-être parce qu'il n'est peut-être pas si souvent évoqué quand on parle de santé mentale ou de système de soins en santé mentale, c'est de savoir de quoi on parle. En fait, il y a des moments où on parle, en fait, finalement, de la psychiatrie publique, c'est-à-dire d'établissements, d'institutions, de structures et de professionnels qui sont payés. Donc en général par des établissements de santé, mais en tout cas payés par l'État pour délivrer des soins qui sont gratuits. Donc ça, c'est le système de soins qu'on appelle la psychiatrie publique. Et en général, quand on parle des réformes des politiques de santé mentale, c'est de ça qu'on parle. Mais en réalité, surtout si on parle des troubles de santé mentale au sens large, ce qui concerne tout un chacun et pas que des personnes qui sont dont le fonctionnement au quotidien est très, très gêné, disons, par leurs troubles. Vous avez aussi tout un volet de professionnels en libéral, parmi lesquels il y a des médecins, donc c'est des psychiatres, donc là encore, qui rentrent dans le cadre de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on est remboursé en partie quand on va les voir, c'est des spécialistes. Puis vous avez des psychologues qu'on va voir qui sont dans le diplôme et réglementés par l'État, mais pour lesquels on n'est pas remboursé, sauf dispositif spécifique. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle parfois le marché du bien-être, mais en fait, c'est aussi des personnes vers lesquelles on se tourne quand on ne va pas bien, et là où dont les diplômes sont souvent très, très peu réglementés. Et en fait, tout ça, c'est les ressources et les ressources en santé mentale, mais avec des degrés de régulation très différents.
Et qui ne fonctionnent de toute façon pas du tout pareil d'un pays à l'autre, j'imagine, puisqu'on parle aujourd'hui, on essaye d'avoir un regard un peu global sur les politiques européennes. Coralie Gandré, c'est une spécificité française, la façon dont la France aujourd'hui regarde, accueille ces patients qui relèvent de la psychiatrie.
Oui, alors moi, pour revenir aux propos, au témoignage que vous veniez de passer, moi je suis plutôt en faveur justement d'une politique de gradation des soins, comme on peut en trouver en Angleterre par exemple, où justement on essaye d'adapter les réponses à l'intensité des troubles, parce qu'il y a des troubles qui effectivement ne vont pas relever de la psychiatrie, d'une prise en charge spécialisée, mais qui peuvent être prises en charge en médecine générale. S'il y a un accompagnement des médecins généralistes par des psychologues ou des psychiatres si besoin. Mais moi je pense qu'il faut quand même vraiment adapter les réponses à l'intensité des troubles, ça fait partie des recommandations de bonnes pratiques internationales, et qu'en France on a un peu manqué de structuration sur ces questions-là, et que du coup ça peut nuire aussi à la lisibilité de l'offre pour les personnes concernées qui ne savent pas toujours vers qui se tourner quand elles ont des problèmes de santé mentale, et ça contribue à retarder l'accès aux soins et à aggraver les troubles.
En France, il existe depuis 2018 un dispositif de formation au premier secours en santé mentale. De quoi s'agit-il et à destination de qui ? Qui est censé être formé au premier secours en santé mentale ?
Alors c'est un dispositif qui a été créé en Australie donc au début des années 2000, qui s'appelait là-bas le Mental Health First Aid. Donc c'est l'équivalent des premiers secours en santé physique, mais pour la santé mentale. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs en France avec une vingtaine d'années de retard. Et donc l'idée, c'est de proposer à tout un chacun de suivre une formation qui dure 2 jours pour comprendre ce que c'est que la santé mentale, les troubles psychiques, comment on peut détecter une personne qui est en souffrance psychique dans son entourage, comment on peut l'encourager à chercher de l'aide. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider et en amont les personnes qui ont des troubles psychiques en leur permettant d'être détectées par leur entourage et encouragées à chercher de l'aide.
Donc c'est pas une formation destinée aux médecins généralistes, par exemple, ou à des urgentistes, ou c'est pour tout le monde.
Voilà, c'est pour tout le monde. Après, d'accord. Si des professionnels qui ne sont pas spécialisés en santé mentale, mais qui sont des professionnels de santé souhaitent la suivre, je pense que ça peut tout à fait être encouragé.
Alors vous nous disiez, Olivia Velpry, qu'aujourd'hui, quand on parle de politique de santé mentale, on parle surtout de l'hôpital public et de la psychiatrie en hôpital public. Décréter la santé mentale comme grande cause, comme l'a fait donc Michel Barnier quand il était encore Premier ministre en France pour cette année 2025, ça concerne seulement le public et cette branche-là de la psychiatrie, ou ça concerne vraiment tout un écosystème de la santé mentale s'active à ce moment-là et bénéficie de moyens, de fonds, peut-être de nouveaux professionnels, de formation.
Alors ça, peut-être que Coralie Gandré pourra mieux répondre que moi, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que quand Michel Barnier annonce cela, il pense à un écosystème beaucoup plus large qui inclut aussi, qui pourrait inclure finalement aussi tout le champ du handicap, c'est-à-dire des structures qui accueillent des personnes qui ont des troubles psychiques au titre du handicap psychique et donc finalement en dehors de la psychiatrie. Et qui inclut aussi des formes de prise en charge presque démédicalisées, en fait, de type lieu d'écoute. C'est un peu la difficulté quand on parle de santé mentale, c'est qu'en fait, il y a une extension tellement large de types de problèmes dont on peut parler que, par exemple, une des choses qui est importante, comme on parlait des jeunes filles et des jeunes en général et de leurs difficultés ou de la manière dont leurs problèmes s'expriment aujourd'hui beaucoup en termes de santé mentale, en fait, par rapport à ces jeunes-là, et d'ailleurs pas que eux, en fait, les ressources, en fait, il y a des rapports au diagnostic qui ont évolué. Et notamment, il y a des modes d'appropriation des diagnostics qui peuvent être assez importants.
Par exemple,
il y a des revendications. La manière dont on pose les diagnostics et dont on définit les diagnostics a évolué assez fortement depuis, on va dire, les années 80.
La publication de ce fameux manuel dont on a parlé d'ailleurs rapidement hier, le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, c'est ça ?
Voilà.
C'est ça qui a tout changé.
Voilà. Enfin, disons qu'en tout cas, ça correspond vraiment à une rupture dans la mesure, mais ça correspond aussi à une période de définition de nouveaux diagnostics. Ça correspond aussi à une période d'extension des diagnostics. Donc, par exemple, c'est la période où on a défini le trouble post-traumatique, le trouble de stress post-traumatique, qui n'existait pas. On a défini le trouble de la personnalité multiple. Et c'est aussi des moments où il y a des diagnostics qui sont étendus. Par exemple, le diagnostic d'autisme existait, mais il correspondait cliniquement à un groupe de personnes beaucoup plus restreint que la façon dont on le définit aujourd'hui. Et en fait, un élément important de cette rupture, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une rupture ? C'est parce que la part de jugement clinique est moins importante, et la part de l'objectif, en fait, c'est que plus ou moins n'importe qui soit à même de faire un diagnostic s'il a le manuel.
On est plus descriptif que prescriptif.
Voilà. On s'appuie pas sur une théorie, donc qu'on pratique la psychanalyse ou les TCC, on est censé diagnostiquer de la même façon grâce à ce manuel. Mais un des effets collatéral, c'est que ça ouvre la possibilité de discuter du diagnostic à un plus grand nombre d'acteurs que les médecins. Et donc, par exemple, la dépression, dans ce manuel, c'est défini par un nombre de critères. Et si vous remplissez ces critères, vous pouvez vous dire que vous avez ce diagnostic. Et donc, se sont développées aussi des formes d'appropriation de diagnostic. Et pour les jeunes, je pense qu'il y a des ressources culturelles. On parle des réseaux sociaux de façon négative pour leurs effets sur la santé mentale, mais c'est aussi des espaces dans lesquels on peut se reconnaître, parler de ses problèmes, trouver des réponses. Donc en fait, c'est aussi une manière dont la santé mentale, ou en tout cas dont les troubles, les mal-être, se déplacent hors du monde médical et clinique pour exister dans des sphères notamment de pairs. Voilà,
de pair PIRS.
De pair PIRS.
Entre soi. Alors, si la santé mentale, dans toute sa globalité, sa diversité, devient un tel enjeu politique aujourd'hui, est-ce que c'est aussi, Coralie Gandré, parce que ça coûte cher à la sécurité sociale, tout simplement, au Royaume-Uni qui décrète un plan d'urgence sur la question quand le ministère du Travail s'aperçoit en 2023 que 3 millions de congés maladie de longue durée ont été déclarés pour des affections qui relèvent très souvent à 53% de la santé mentale. Est-ce que, d'après vous, c'est une raison pour lesquelles les gouvernements aujourd'hui s'en saisissent en disant qu'il faut renverser la tendance?
Oui, bien sûr, la question des coûts, malheureusement, c'est toujours une question qui mobilise fortement les décideurs publics, et c'est le cas aussi en France, parce que c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, comme on l'a entendu au début de l'émission, hein, ça représente plus de 20 milliards d'euros annuels. Donc voilà, c'est un poids très fort, effectivement, aussi sur le système de santé d'un point de vue économique, et c'est ça qui est aussi un levier pour les décideurs publics, en plus de cette pression médiatique et sociétale dont on a parlé précédemment.
Au Royaume-Uni, le gouvernement travailliste a donc annoncé un grand plan sur la santé mentale à l'initiative non pas du ministère de la Santé, mais du Travail. Et en attendant, les hôpitaux continuent à souffrir de leur manque de moyens.
Nos patients attendent parfois 5 à 6 jours ici dans les couloirs, dans l'espoir qu'un lit se libère. Bien souvent, dans cet intervalle, leur santé mentale se dégrade et des comportements à risque surviennent. Le personnel est exposé à plus de violences et d'agressions. Ce qu'il y a de pervers avec ces conditions, c'est que les soignants rentrent chez eux le soir et se disent qu'ils ne font pas du bon boulot, qu'ils laissent tomber les patients.
Ma plus longue crise psychotique a duré 87 heures. 3 jours et demi environ. Le fait de ne pas avoir été tout de suite prise en charge à l'hôpital a fait empirer les choses. C'était très difficile là-bas. J'ai dû attendre 11 heures avant qu'on me mette sur un brancard. Avant cela, j'étais simplement étendue sur le sol de la salle d'attente.
Une patiente et une psychiatre du Royal Berkshire Hospital de Reading au Royaume-Uni qui parle de ce manque de moyens qui contribue à vraiment aggraver les conditions de soins des patients et des patients qui attendent. On connaît ça aussi en France dans une autre mesure. Il se trouve qu'en France, le nombre de patients a plus que doublé en 25 ans. Or, dans le même temps, on fermait 88 000 lits et il reste aujourd'hui un peu plus de 52 000 lits de hospitalisation à temps plein. Coralie Gandré, par rapport au budget de la santé globale, quelle part aujourd'hui est consacrée à la santé mentale ?
Alors, en France, c'est 14% des dépenses de santé qui sont allouées à la santé mentale. C'est aussi un poste de dépenses important dans les autres budgets de la santé des autres pays. Mais globalement, en France, notre part, elle est plutôt plus importante que dans les autres pays. Après, ça peut être interprété à la fois de façon positive, en se disant qu'on investit beaucoup d'argent sur ce poste de dépenses, mais aussi de façon un peu plus négative, en se disant qu'on a beaucoup investi sur le curatif, donc sur les prises en charge hospitalières, et pas assez sur la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles psychiques qui permettrait de réduire les dépenses. Donc voilà, une forte part des dépenses, mais aussi parce qu'elles ne sont pas mises au bon endroit.
Une particularité française aussi du secteur psychiatrique français qui est construit selon une logique qu'on appelle géopopulationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire qu'en fait, alors c'est toujours un défi d'expliquer ce que c'est que le secteur psychiatrique en quelques minutes et en peu de mots, mais globalement c'est une équipe pluriprofessionnelle, médicale et paramédicale, qui est en charge de coordonner les parcours de santé mentale d'une population sur un territoire géographique qui est défini. Donc en fonction de son lieu de vie, on était rattaché à une ou l'autre de ces équipes pluriprofessionnelles, et c'était dans une visée de prendre en charge la santé mentale des personnes au plus proche de leur lieu de vie, en opposition au modèle asilaire qui lui avait précédé, où la personne était au contraire éloignée de son milieu de vie, qui était jugée à l'origine des troubles.
Et est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un avis, une sorte de bilan sur la façon dont ce fonctionnement-là agit sur la prise en charge de toutes des troubles dont on parle depuis le début de cette émission ?
Alors la spécificité de la politique de sectorisation psychiatrique en France, c'est qu'en fait on a donné à un acteur qui était rattaché à un établissement hospitalier, dont le cœur de l'expertise était le soin, la mission d'une approche globale de la santé mentale des populations, donc allant de la prévention des troubles psychiques à la prise en soins psychiatriques jusqu'à l'inclusion sociale des personnes concernées. Or, voilà, le secteur psychiatrique, il était rattaché à un établissement hospitalier, donc ça a été parfois compliqué pour lui de mener à bien toutes ces missions-là. Et donc, ça a pu contribuer à retarder un peu voilà, toutes les actions de promotion et de prévention de la santé, d'inclusion sociale des personnes concernées. Et maintenant, la politique a évolué en replaçant le secteur au centre d'une politique de santé mentale qui inclut aussi d'autres acteurs, donc par exemple des acteurs du soin de ville, mais aussi des acteurs du monde médico-social et social. Et voilà, c'est peut-être que le secteur a contribué un peu à retarder ce fonctionnement-là un peu plus global en France.
On est loin d'imaginer, Livia Velpri, à quel point les systèmes de santé sont différents d'un pays à l'autre et la prise en charge de patients qui relèvent de la santé mentale ou des troubles psychiatriques. Il se trouve que vous connaissez bien le cas du Chili. Comment ça se passe au Chili? Pas du tout comme chez nous, c'était intéressant, je trouvais, d'en dire un petit mot.
Oui, tout à fait. Ça renvoie à cette diversité dont je parlais tout à l'heure et dans des différents types d'offres de soins. Juste, j'étais en train de réfléchir à ce que venait de dire
ça vous inspire,
Coralie Gandré. Ouais,
vous voulez dire quelque chose ?
En fait, oui, c'est, je pense que ça illustre bien en fait, cette difficulté. C'est la notion de santé mentale au Royaume-Uni. Dans les années 40, entre 50-60, en fait, elle est apparue aussi dans cette tentative de fédérer tous ces endroits dans lesquels il y a des soins par rapport à un mal-être psychologique, mais qui relève d'institutions différentes, d'initiatives différentes. Et donc, en fait, la santé mentale, c'est une notion qui a aussi eu ce rôle, ou qui a cette fonction un peu fédératrice d'essayer de mettre ensemble. Là, par exemple, dans le cas de que cite Coralie Gandré, en fait, le secteur, c'est le secteur psychiatrique. Et donc, la santé mentale, et c'est d'ailleurs comme ça que les psychiatres l'ont bien pris au début des années 2000, ça veut dire élargir. Et donc, ça veut dire que c'est pas la psychiatrie qui s'occupe de tout ce qui a à voir avec le mal-être psychologique. Voilà. Mais c'est aussi d'autres sphères et d'autres champs du monde social. Le cas du Chili, bon, il est particulier, il est tout à fait, il est assez fort parce que le Chili est un pays donc qui est marqué par une idéologie libérale assez forte. Et donc,
dans l'économie, le secteur de la santé, oui, c'est flagrant.
Voilà, et donc il y a...
l'école de Chicago,
voilà, à Séville. Voilà, et donc il y a deux systèmes, un public et un privé. Bon, on se dit comme partout, nous aussi, on a un système public et privé, mais en fait, c'est deux sécurités sociales distinctes. Donc en fait, soit on relève du secteur public, soit on relève de la sécurité sociale privée. Et donc, c'est comme s'il y avait deux systèmes de soins étanches dans le même pays. Voilà. Par ailleurs, par rapport à la santé mentale, on va dire par rapport au système public, effectivement, ce qui est intéressant, on a travaillé avec d'autres chercheurs sur l'agitation des enfants et donc sur les troubles. Le trouble de déficit attentionnel. Et en fait, on voit que les enfants. Donc c'est un système avec première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, qu'évoquait Coralie Gandré, c'est-à-dire avec des niveaux en fait d'accès selon l'intensité des troubles. Et en fait, les enfants reçoivent un diagnostic très tôt, parfois à l'école, donc sans intervention finalement de professionnel, parce que c'est ce qui permet d'accéder à un traitement, donc à un médicament. Et c'est si le médicament ne fonctionne pas que à ce moment-là, ils vont aller voir un spécialiste pour peut-être revoir le diagnostic. Voilà. Alors qu'en France, on a traditionnellement un très faible, une réticence, disons, à diagnostiquer. Enfin, les enfants n'ont pas forcément beaucoup de diagnostics et un moindre taux de recours au traitement médicamenteux.
Coralie Gandré, on expliquait tout à l'heure le manque de moyens dans l'hôpital public, dans les services de psychiatrie, avec 48% de postes de praticiens titulaires qui sont vacants. Aujourd'hui, la spécialité de la psychiatrie, on avait eu l'occasion en 2023 de rappeler que c'était une spécialité devenue impopulaire, puisque sur 547 postes à pourvoir, 67 étaient restés vacants. Le ministre de la Santé à l'époque avait dit que les étudiants choisissaient de moins en moins la psychiatrie, mais de plus en plus la chirurgie plastique. Est-ce qu'aujourd'hui, des choses sont faites pour faire en sorte de retrouver des vocations et des personnes qui, au moins, occupent les postes qui existent et s'occupent des patients qui sont en attente dans les hôpitaux ?
Alors oui, déjà à destination des étudiants, il y a une campagne de promotion qui s'appelle Choisir Psychiatrie, qui est inspirée de campagnes de promotion qui avaient eu lieu auparavant au Royaume-Uni et en Australie, qui est en cours, donc avec des vidéos, voilà, des témoignages de psychiatres pour essayer d'attirer les étudiants vers cette spécialité médicale. Donc c'est quelque chose, c'est un problème qui est bien identifié par les pouvoirs publics et aussi les associations de psychiatres et dont ils ont essayé de s'emparer pour résoudre le problème. Mais je pense qu'un des problèmes persistants est le témoignage en Angleterre, de la professionnelle de santé en Angleterre que vous passiez juste avant, mais évoque cela. Il y a le concept de moral injury qui se développe dans la littérature internationale, donc de préjudice moral. C'est le fait pour les soignants de se retrouver dans des conditions de travail qui font qu'ils sont obligés de mettre en œuvre des pratiques qui sont contraires à leurs valeurs morales. Donc, par exemple, des pratiques d'isolement des patients, de contention des patients. Et donc, les professionnels sont obligés de délivrer des soins d'une qualité qui ne leur semble pas optimale. Et donc, c'est pour eux, c'est quelque chose qui est difficile à vivre et qui concourt à des conditions de travail dégradées et à pouvoir leur faire quitter la profession ou en tout cas changer un peu de domaine d'exercice en se tournant vers un exercice qui n'est pas au sein de la psychiatrie publique, par exemple.
Donc, parfois, avoir recours à la contention des patients, non pas parce que ce patient nécessite d'être contenu, il nécessite sans doute de l'aide, mais surtout parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs ou de moyens pour le prendre en charge correctement et de façon humaine. C'est une question qui se pose dans tous les pays occidentaux aujourd'hui qui réfléchissent à l'évolution de leur système de soins. Au Royaume-Uni, par exemple, ce patient rencontré par la BBC, Rafa Meza, racontait son internement en unité psychiatrique.
L'expérience de l'internement est vraiment hors du commun. La restriction de liberté de mouvement, la prise de médicaments sous contrainte, l'isolement dans des chambres de confinement, se voir dicter les moments où l'on peut sortir, dîner, dormir. Bien souvent, la thérapie et les soins sont justifiés par la prévention des risques. On vous dit, vous n'êtes pas bien en ce moment, on va prendre la décision pour vous car vous n'avez pas le discernement suffisant. Alors que si nous avions des documents de choix anticipés ou d'autres procédures de ce type, nous pourrions prendre des décisions plus respectueuses des personnes.
Alors en France, ça fait déjà 60 ans, Livia Velpri, que les thérapeutes comme les décideurs publics appellent à remettre le plus possible les patients dans la vie, entre guillemets, de ne pas les soigner en vase clos, de leur permettre de se loger, d'avoir un emploi. Où en est cette démarche-là de désinstitutionnalisation en France ou ailleurs ?
Alors, peut-être que par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je pense que c'est important de distinguer cette question de la désinstitutionnalisation qui a à voir avec où est-ce qu'on imagine que c'est bien de soigner des personnes qui ont des troubles psychiques et la question de la contention et du recours à la contrainte.
C'est différent.
Voilà, qui est en fait plutôt comment est-ce qu'on envisage le soin et la relation de soin et qu'est-ce qu'on considère que c'est que soigner. Et ça, finalement, bon, évidemment, c'est des questions qui se posent particulièrement à l'hôpital, mais c'est des questions, c'est la question du consentement. Mmh. Et donc, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une relation de soins ? Est-ce que c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour le patient, ce qui était la relation médicale typique des années 50, ou est-ce que en fait on est dans un cadre plus contractuel où il faut écouter aussi ce que dit le patient et que si jamais il est, ou l'usager, et si jamais il n'est pas d'accord, et ben il faut l'écouter et donc ne pas agir même si on pense que ça n'est pas son intérêt. Voilà. Donc en fait ça c'est une évolution. À mon avis, importante de la relation de soins qu'on a observée ces 30-40 dernières années.
On va parler en particulier de la question de l'internement sous contrainte avec Mathias Courturier dans un instant, juste après Stromae.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul.
du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui nous font vivre à l'enfer. Ces pensées qui nous font vivre à l'enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Stromae, qui en mai 2023 avait mis un terme avant l'heure à la grande tournée qui devait accompagner son troisième album, dont est issue cette chanson L'Enfer, où il explique la dépression qui l'a contraint à une longue pause de 7 ans. Santé mentale, une urgence mondiale, c'est le thème de cette mini-série de Culture Monde avec aujourd'hui nos invités Coralie Gandré et Livia Velpri pour parler de la révolution en marche en Europe qui a élargi le champ d'études et de soins de la psychiatrie à la santé mentale. En psychiatrie, il est une pratique qui subsiste et que certains remettent en cause à l'heure de la tendance à la désinstitutionnalisation, c'est l'internement sous contrainte.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Aujourd'hui, j'ordonne le maintien de votre hospitalisation sans consentement, tout simplement parce que votre état nécessite des soins. Et des soins sans doute de longue durée. Je me suis aperçu à l'examen du dossier quand même que vous aviez déjà fait l'objet de poursuites pour des destructions par incendie par le passé. Ça n'est pas la première fois, hein. Donc, je ne vous en veux pas. C'est la maladie. Vous avez besoin qu'on vous aide et vous avez besoin de soins. D'accord? D'où cette décision.
Un juge des libertés du Puy-de-Dôme dans une séquence enregistrée pour la chaîne YouTube Immersion. Même si les politiques psychiatriques prônent désormais la fin des unités fermées ou l'implication des patients dans leur parcours de soins, l'internement sous contrainte reste fréquent dans les pays occidentaux. On y recourt même davantage qu'auparavant. Bonjour Mathias Couturier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Caen Normandie, membre de l'Institut Canet de recherche juridique. Alors, on a évoqué rapidement l'internement sous contrainte tout à l'heure avec Livia Velpri avant de vous retrouver. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays où cette pratique est interdite, tout simplement?
Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai fait le tour de tous les pays du monde. En tout cas, en Europe, il ne me semble pas, et de manière générale en Occident, je ne pense pas qu'aucun système se passe de cette possibilité, de soigner sans le consentement, d'interner, alors dans un lieu qui n'est plus forcément l'hôpital psychiatrique, ça c'est possible. Parce que même l'Italie, qui est finalement le pays qui a poussé la politique de désinstitutionnalisation le plus loin possible dans les années 70, conserve des modalités de traitement, ce qu'on appelle le traitement sanitaire obligatoire, donc des possibilités finalement d'enfermer ou de contraindre aux soins d'une manière ou d'une autre.
En Italie, où la loi Bassaglia, du nom de Franco Bassaglia, le psychiatre communiste, avait en 1978 fait le choix radical d'en finir avec les structures fermées, les asiles. Il y a aujourd'hui d'autres systèmes de prise en charge des patients en Italie. Plus généralement, en Occident, disons, les systèmes de psychiatrie reposent sur l'idée que le discernement des patients peut être altéré par leur pathologie et qu'il est donc parfois nécessaire de les interner sous la contrainte. Ça, c'est l'idée générale, mais est-ce que tous ont la même approche des pathologies et du discernement, la même définition de ce qu'est le discernement, donc in fine la maladie mentale?
Alors, les critères de placement en soins psychiatriques, appelons ça d'après la nomenclature française, en soins psychiatriques sans consentement, peuvent varier un petit peu d'un pays à l'autre. Ils s'appuient effectivement énormément sur cette notion d'incapacité, d'inaptitude ou d'impossibilité, pour prendre le vocabulaire français, à consentir aux soins. Alors après ça, il se déploie suite à ce constat de manière parfois un petit peu différente dans le cadre de systèmes processuels qui vont varier, mais ils reposent globalement tous un petit peu sur l'idée que voilà, à un moment donné, des individus peuvent être privés de leur capacité à comprendre ce qui est ou ne serait pas dans leur intérêt, et finalement, considérant que leur droit à la santé l'emporterait finalement sur leur droit de refuser les soins, l'autorité, d'une manière ou d'une autre, s'autorise à déclencher des processus de soins contraints, en effet.
C'est vrai que chaque pays a ses propres modalités de ce système de contraintes, et bien sûr, il ne s'agit pas de vous demander, Mathias Couturier, de dire dans le détail ce que chacun de tous les pays du monde font en la matière. Vous avez étudié les systèmes psychiatriques en France, en Suisse, en Belgique, au Canada aussi, en Italie. Au Québec, écrivez-vous dans un article, les lois imposent le danger comme unique critère de l'internement depuis le 19e siècle, à l'exclusion de toute autre considération. Danger, ça ne veut pas dire risque. Comment est-ce qu'on qualifie qu'un patient représente un danger?
Alors, c'est le danger pour lui ou pour autrui, en réalité. Ce qui est d'ailleurs un petit peu aussi implicitement, je dirais, de plus en plus le cas du système français. Mais en gros, voilà, ces systèmes reposent sur l'idée qu'à un moment donné, on trouve un petit peu le même type de critères, par exemple dans la loi ontarienne sur la santé mentale. Un individu peut être susceptible bien de s'infliger à lui des lésions ou un traumatisme, ou bien de l'infliger aux autres. Et c'est à ce titre-là qu'il est susceptible ensuite de faire l'objet de ce type de procédure. Alors en France, on a un système un petit peu différent, mais on retrouve effectivement quand même un petit peu implicitement cette idée-là, surtout depuis la loi de 2011 qui a introduit une nouvelle procédure d'admission qui s'appelle l'admission en soins pour péréliminants. Donc en gros, qui permet maintenant, même en l'absence de demande d'un tiers, donc de demande d'un familier, de passer quelqu'un en soins psychiatriques sans consentement si on estime qu'il se met en danger lui-même. Et on a de l'autre côté, alors elle très classique, très ancienne, puisqu'elle remonte à 1838, l'admission sur décision du préfet en cas donc de risque pour la sécurité des personnes, faut-il comprendre, la sécurité des autres personnes que le malade lui-même.
Il y a le préfet qui décide au départ, donc l'État, sur certificat médical, donc proposition du médecin, si je ne dis pas de bêtises, qui décide d'un internement sous contrainte, et le juge qui intervient dans un second temps, au bout de 12 jours, me semble-t-il. Sur quels éléments se base-t-il pour juger? Est-ce qu'il fait ses propres constatations, le juge, sur l'état mental du patient? Et est-ce que statistiquement, les juges s'opposent fréquemment à la décision d'interner sous contrainte?
Alors, la fonction du juge est très différente justement selon le type de système psychiatrique ou de système d'internement. En gros, on va dire que, pour catégoriser un petit peu, alors aucun système n'est pur, mais en substance, on a, disons, trois types de systèmes en matière d'internement en Occident. On a les systèmes médico-administratifs, où c'est la décision qui est prise par l'autorité administrative ou un médecin agréé par l'autorité administrative. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que le juge n'intervient pas, mais il n'intervient, je dirais, que pour prolonger, et souvent sur la base d'un contrôle relativement formel, les soins qui ont été décidés par l'autorité médico-administrative. C'est le cas en France en particulier, comme vous l'avez dit, le juge intervient à 12 jours. Mais son rôle est relativement contraint. La jurisprudence de la Cour de cassation, disons, a limité son intervention à un rôle de vérification de conformité de la procédure et à un rôle de contrôle, je dirais, de la qualité de la motivation énoncée par l'autorité administrative ou médicale pour justifier les soins. Et à l'autre extrémité du spectre, on a alors des systèmes, eux, strictement ou purement judiciaires, où c'est le juge qui décide tout et d'emblée, et parfois très tôt, dès le départ. On a l'exemple en Europe de la Belgique, on a l'exemple au Canada du Québec, et pour reprendre les propos d'une de mes collègues canadiennes, Madame Bernheim, c'est un système qu'on pourrait même qualifier de surjudiciarisé. Mais globalement, j'ai envie de dire, dans l'un comme dans l'autre système, je dirais que même dans un système strictement judiciarisé où le juge décide tout, y compris parfois la nature du traitement à prescrire, hein, dans le système québécois, le juge décide jusqu'à la nature du traitement, la posologie, etc., etc. Mais quand même, globalement, le juge québécois suit dans l'immense majorité, presque dans la totalité des cas, j'ai envie de dire, la proposition des médecins. Dans le système français, on a ce qu'on appelle un taux de main levée qui est de l'ordre alors de 5 à 6% à peu près. Dire le juge intervient 12 jours et dans 5 à 6% des cas prononce la main levée.
La main levée, pardon, ça veut dire quoi? J'ai pas compris.
En fait, la fin de la mesure.
D'accord.
La fin de la mesure, tout simplement.
D'accord.
Voilà, on appelle ça la main levée. Et il prononce la main levée dans la très, très grande majorité des cas, ce sont des mains levées pour des problèmes de non-respect des procédures.
D'accord.
Les mains levées pour des problèmes, je dirais, de fond, parce que le juge estimerait que les troubles mentaux sont insuffisamment caractérisés, sont extrêmement rares.
On pourrait imaginer, puisqu'on parle de plus en plus de remettre, d'inclure davantage le patient dans le processus thérapeutique, de discuter davantage pour comprendre quel est le soin le plus adapté, etc. On pourrait se dire qu'il y a moins d'internements sous contrainte qu'avant. Or, il y en a bien plus qu'avant. En France, le nombre a doublé en 20 ans. Aujourd'hui, on estime à 100 000 personnes par an le nombre donc de patients qui suivent des soins sans consentement. Comment est-ce qu'on l'explique, Mathias Couturier?
On l'explique assez simplement parce qu'en fait, c'est pas en réalité 100 000 patients internés, c'est 100 000 patients qui font l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Et alors, la France n'échappe pas à cette logique qu'on a déjà vue de désinstitutionnalisation. Et en substance, il faut comprendre, alors, je pense que mes collègues de l'IRDES vous l'expliqueraient mieux que moi, mais ça se fait en très très grande majorité et de plus en plus en milieu ouvert. En fait, la loi de 2011 a cherché, et c'était son objectif, un de ses objectifs essentiels, à favoriser le développement des soins en milieu ouvert, au travers de ce qu'on appelle les dispositifs de programme de soins. Donc, en fait, le programme de soins commence systématiquement, les mesures donc en milieu ouvert commencent systématiquement par une période d'observation de 72 heures en milieu hospitalier, mais voilà, la loi maintenant, d'une certaine manière, pousse de plus en plus, face à la diminution des moyens, d'Illy, et aussi face à une politique qui s'est entamée déjà dans les années 60 avec l'apparition de secteurs, je dirais, de volonté de limiter le recours à l'hospitalisation psychiatrique. Il y a une conjonction entre plusieurs phénomènes qui ont fait que, voilà, on cherche à développer de plus en plus les soins en milieu ouvert, ce qui ne veut pas dire des soins sans contrainte en réalité, hein. C'est une forme de contrainte adoucie, assouplie, où l'individu finalement, entre guillemets, un petit peu menacé d'une reprivation de liberté s'il ne vient pas à ses rendez-vous, ne prend pas ses traitements. Mais il faudrait reprendre les chiffres exactement, mais je crois que sur le nombre de 100 000, ça représente, je crois, à peine un quart, il me semble, des personnes qui sont réellement internées, en fait. Et cette augmentation spectaculaire qu'on a vue, effectivement, depuis le début des années 2000, elle se traduit essentiellement au travers de l'augmentation du nombre de mesures de soins en milieu ouvert, de ce qu'on appelle maintenant les programmes de soins.
Merci beaucoup Mathias Couturier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Caen-Normandie. Qui veut réagir peut-être pour conclure? Livia Velpris, la question d'inclure davantage le patient dans le processus thérapeutique, comment se pose-t-elle aujourd'hui en France?
Oui, je pense que cet exemple, le sujet dont on parlait là est intéressant parce que par rapport à ça, parce que finalement, on a parlé des soins sans consentement. Bon, par ailleurs, en fait, les programmes de soins sans consentement en dehors de l'hôpital, ça existe que depuis 2011. Donc, en fait, avant, tout ce qui est désinstitutionnalisation et programmes de soins en milieu ouvert, c'est des choses qui se font en dehors de la contrainte légale. Mais là, avec Mathias Couturier, on vient de parler de contrainte légale. En réalité, la question de la contrainte dans le soin, elle est bien plus large que celle de la contrainte légale. Et finalement, ce à quoi on a assisté récemment, c'est à un développement de cette logique, en fait, de réflexion en termes légaux. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce que le juge contrôle la légalité parce que c'est une atteinte aux libertés? Mais en réalité, dans la relation de soins, il y a une part de contrainte et de consentement qui est toujours en négociation et qui se fait en deçà, finalement, des enjeux, légaux et de droits fondamentaux. Et par rapport à ça, effectivement, il faut faire monter les mouvements d'usagers et la place des patients dans les soins.
Merci beaucoup, Livia Velpris, d'avoir été avec nous, membre du laboratoire CERMES 3 et maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris 8. Merci beaucoup, Coralie Gandré. Je renvoie les auditeurs vers votre atlas de la santé mentale en France. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRDES également. Merci. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez en Bolivie ce matin pour nous parler d'une autre crise sanitaire, d'une crise des déchets dans la ville de Cochabamba, dans le centre-ouest du pays.
Plus de 7000 tonnes d'ordures déversées dans les rues de Cochabamba, la quatrième ville de Bolivie, alerte les quotidiens El Diario et La Opinion, peut-être 12 tonnes même, si l'on en croit RTP Bolivia, la chaîne de télévision publique bolivienne. Cela fait 12 jours que les déchets n'ont pas été collectés à Cochabamba. Des habitants bloquent la principale décharge de cette ville de 600 000 habitants. Et cette décharge de Caracara est saturée. Les riverains exigent depuis des années sa fermeture définitive. Elle était prévue l'an dernier. Elle a été repoussée d'un an finalement, explique le quotidien La Razón ainsi que La Opinion. Ce journal d'ailleurs publié à Cochabamba décrit les liquides noirâtres qui s'écoulent des poubelles, des verres et des odeurs désagréables qui envahissent les rues de la ville. Des sacs en plastique volent dans les rues, raconte La Razón, et surtout des montagnes de poubelles s'accumulent donc chaque jour le long des trottoirs. Avec des habitants, masques sur le visage, mains gantées, qui en rajoutent un peu plus chaque jour, comme on peut le voir dans les pages du journal bolivien Los Tiempos, publié lui aussi à Cochabamba. Les conteneurs débordent et il faut donc se boucher le nez si l'on marche à côté, montre également Los Tiempos. Pire encore, pour les hôpitaux qui croulent, eux, sous les déchets à risques infectieux, des pansements, prélèvements sanguins, placenta, seringues, énumère le quotidien Los Tiempos. Ces déchets cliniques sont prioritaires, affirme la société de gestion des déchets municipaux, mais la collecte générale est paralysée par le blocage de la décharge de Caracara, note le quotidien La Razón. Blocage avec des pierres et de la terre, impossible donc de passer pour les camions poubelles, explique El Diario. Les efforts déployés par une entreprise pour dégager les rues avec des pelles sont restés vains, ajoute la chaîne télévisée Unitel.
Et des habitants tombent malades.
Des enfants notamment, à cause de la pollution de l'air, comme le dénoncent des habitants de l'organisation de base territoriale du Guadalquivir, ils accusent l'équipe municipale de sciemment stocker des déchets près de chez eux, rapporte La Razón. Risque sanitaire confirmé par les autorités et la chaîne télévisée RTP Bolivia. Les cas de diarrhée ont augmenté de 7% la semaine dernière, les cas d'hépatite A de 55%, affirme l'AFP. Et le dialogue entre la mairie et les habitants est au point mort, malgré la présence d'un médiateur, note Los Tiempos. Alors, faute de solution pour trouver une autre décharge, un autre terrain habilité, ce sont 700 tonnes de déchets qui se rajoutent chaque jour à Cochabamba, estime La Opinion. Risque de glissement de terrain à certains endroits, de polluer aussi les rivières avoisinantes.
Mira, ahí está el letrero de zona escolar y así se encuentra. Sobre esta montaña de basura, ahí debajo hay basureros soterrados.
Regardez, le panneau indiquant la proximité d'une école se trouve au sommet d'une montagne d'ordures et il y en a d'autres qui sont enterrés, décrit face caméra un journaliste de Bolivision qui porte un masque car il dit ne pas supporter l'odeur nauséabonde qui se dégage des poubelles. Ce journaliste télé décrit encore les liquides qui s'échappent des poubelles et ce dans une zone où coulent plusieurs rivières. Il y a même une citerne en aval qui transfère ensuite l'eau vers des zones qui en ont besoin au sud de Cochabamba, précise-t-il sur la chaîne télévisée privée Bolivision. Et les déchets s'infiltrent aujourd'hui dans le sous-sol, risquant de contaminer l'eau de ses sources et ensuite les consommateurs. Les commerçants, les habitants viennent de lancer un ultimatum aux autorités. Elles ont 24 heures pour commencer à nettoyer les rues de Cochabamba, indique Los Tiempos. Sinon, les déchets seront déversés en plus grand nombre dans la quatrième ville de Bolivie, je le rappelle. Elle doit par ailleurs accueillir ce dimanche une journée des piétons qui pourrait bien être annulée, note Los Tiempos et la chaîne télévisée ATB, à cause de cette crise des déchets. Pas sûr que les autorités nationales puissent aider à régler le problème. Le président Luis Arce est chahuté, défié par son prédécesseur et ex-allié Evo Morales, raconte le quotidien El Deber, celui qui fut le premier chef d'État bolivien d'origine indigène et déterminé à se présenter à la présidentielle d'août prochain. Entouré de paysans et d'ouvriers, Evo Morales a annoncé lundi, depuis le département de Cochabamba, son fief politique, la création d'un nouveau mouvement, Evo Pueblo. Il a encore un long chemin bureaucratique à parcourir, prévient El País America, car il a déjà dirigé trois fois la Bolivie, il n'a juridiquement plus le droit de se représenter.
Toute autre chose. Pour finir, Catherine, un coup de filet international contre un site de pédopornographie.
C'est la plus grande opération de l'histoire d'Europol contre ce type de cybercriminalité. Trois années d'enquête ont permis aux autorités allemandes de démanteler une plateforme suivie par près de 2 millions d'utilisateurs, dont le nom Kidflix, référence aux enfants et à Netflix, est à lui seul dégoûtant selon le ministre bavarois de la Justice, cité par la Süddeutsche Zeitung, car les utilisateurs pouvaient y télécharger plus de 90 000 vidéos montrant de graves violences sexuelles commises sur des enfants et des bébés, dénonce la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zeitung, les enquêteurs bavarois, en coopération avec une trentaine de pays, ont réussi à localiser et à fermer cette plateforme du Darknet. 1400 suspects identifiés jusqu'à présent, une centaine en Allemagne. De son côté, la police fédérale belge a ouvert une enquête, indique la RTBF, sur un certain nombre de suspects qui pourraient être aussi impliqués sur cette plateforme Kitflix.
Merci beaucoup Catherine Dutu.